Vous écoutez France Culture. À voix nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Djian rencontre Dominique Rocheteau. Ce soir, l'aventure des Bleus.
Dominique Rocheteau, la dernière Coupe du Monde, c'est 1986, c'est votre troisième et dernière Coupe du Monde. Et si on en croit les articles de presse de l'époque, si on en croit votre ouvrage publié en 2005, L'Ange Vert, c'est votre meilleure Coupe du Monde.
C'est celle qu'on apprécie le plus, parce qu'on est tous des joueurs, je dirais pas en fin de carrière, mais on est tous des trentenaires, avec quelques petits jeunes qui arrivent quand même aussi derrière, qu'on appelle d'ailleurs, pour l'anecdote, ces journalistes qui les surnomment les coiffeurs.
Pourquoi ?
Parce que c'est les remplaçants. Ils sont là, donc les coiffeurs, quoi. Et voilà, c'est... Mais c'était un truc marrant, quoi. Ouais. Parce que bon, il y avait toute notre génération. C'est vrai qu'on jouait ensemble depuis longtemps, on était les titulaires. Et puis, il y avait ce qu'on appelait les coiffeurs, les Jean-Marc Ferreri, Jean-Pierre Papin, qui est tout jeune, qui arrive aussi. Enfin bon, voilà. Et donc, pareil, que ce soit en 78, où je vous parlais justement hier de générations qui se rencontrent. Et là, c'est pareil, c'est donc nous, notre génération, la génération Platini, je dirais, et puis la nouvelle génération qui arrive derrière. Et donc, ça fait une super équipe, bien sûr. On est parti se préparer à Font-Romeu parce qu'on sait qu'on va jouer en altitude au Mexique, par une forte chaleur. À Mexico, justement, Mexico est à 2000 mètres d'altitude. Et on sait qu'il fait très chaud aussi. Que la Coupe du Monde est longue. C'est une compétition de longue haleine. Et donc il faut être prêt dès le début, mais il faut être aussi prêt pour. Pour un mois après, si on a la chance d'aller jusqu'en demi-finale ou en finale. Donc on se qualifie au premier tour. À ce moment-là, on est dans le centre du Mexique, à León, je crois. Et ensuite, en huitième de finale, on est transféré à Mexico, où on fait notre match contre l'Italie. Et là, je me rappelle d'un très grand match contre l'Italie, où on gagne 2-0, où on maîtrise notre sujet. Je vous parle de l'altitude, justement dans les vestiaires, pour l'anecdote, on a des masques à oxygène qu'on est obligé de mettre avant le match et à la mi-temps pour mieux récupérer, pour mieux respirer.
On n'a pas gardé
ceux qui veulent,
d'image.
Mais on a chacun un masque à oxygène.
Et vous le mettiez ?
Parce que nous, on ne se dope pas. Bon.
Et vous le mettiez dans les contrôles de Rocheteau ?
Comment ? Oui, j'avais mis. Oui, j'avais mis. À la mi-temps, quoi, pour mieux respirer. Bon, pour vous dire que c'était pas évident, quoi. Voilà, et puis on arrive à Guadalajara. Guadalajara, pour moi, c'était donc en 70, le Brésil jouait à Guadalajara avec Pelé, avec toute la meilleure équipe de toute l'histoire du football. Et j'avais donc ces souvenirs. Et donc on arrive à Guadalajara pour jouer contre le Brésil, justement. Et donc là, je me rappelle d'un match exceptionnel, sûrement le plus beau match de notre génération, même si on a fait aussi des bons matchs en 82, en 78. Mais là, dans un stade donc tout jaune, puisque il n'y a que des supporters brésiliens, puisque c'est pas très loin, Brésil et Mexique et Guadalajara. Donc, on a le sentiment de jouer, enfin, c'est pas le sentiment, mais c'est qu'on joue pendant tout le match sur un rythme de samba, parce qu'il y a des orchestres de samba dans tout le stade. Et j'ai ce souvenir, c'était magnifique. On joue contre une équipe. Parce qu'il y a eu des très grandes équipes qui n'ont jamais obtenu de trophée. Et c'est celle-là, donc c'est l'équipe du Brésil qui s'était fait éliminer en 82 en Espagne, en demi-finale, en quart de finale contre l'Italie qui avait été championne du monde. Et là, on les élimine après un match.
D'anthologie,
mais où on a eu un peu de réussite quand même, où ils auraient très bien pu aussi se qualifier, puisqu'on nous, on se qualifie au pénalty, sur un dernier pénalty de Fernandez qui marquait le dernier pénalty. Et oui, alors pour vous dire que c'était une grande équipe du Brésil, il y a beaucoup d'équipes du Brésil qui ont obtenu un titre, qui ont été champions du monde, et cette équipe-là avec Zico, Socrates, il n'y avait que des grands joueurs, et ils n'ont pas, et malheureusement pour eux, ils n'ont pas obtenu de titre. Donc l'équipe de Hollande, Pays-Bas aussi, pareil, qui était une très très grande équipe. Pour moi, peut-être une des plus belles équipes qui est aussi dans l'histoire du foot, avec Johan Cruyff en 1974, et qui se font battre par l'Allemagne en finale. Donc,
Pelé a dit lui-même que c'était un des plus grands matchs qu'il ait jamais vu, France-Brésil au Mexique.
Oui, donc c'est une référence. Et oui, un des plus grands matchs parce que c'était toute la...
Oui, qui fait que c'est un grand match ?
L'état d'esprit. Pratiquement pas de coup franc. Pas de... Comment dire, donc un match qui joue dans un état d'esprit.
Pas de carton jaune.
Superbe. Pas de carton. Le match n'est jamais arrêté. Tout en continu. Avec un football très. Deux footballs qui se ressemblent quand même. Très technique. Un jeu simple. Donc voilà. Moi, j'ai revu ce match. Ouais, c'est vrai que c'était un match. Ouais, magnifique quoi. Et puis cette ambiance autour, cette ambiance brésilienne. On avait quelques supporters français qui étaient là, enfin, oui, il y en avait quand même quelques-uns, mais le stade était jaune quoi. Et donc on réussit l'exploit de se qualifier. Donc ça, c'était pour nous
un grand moment
parce que c'est vrai qu'on a, c'est nous qui dansions au rythme de la samba après dans les vestiaires avec Gentilgana qui était un peu le. J'ai ce souvenir-là, qui mettait l'ambiance. Et puis, trois jours après, et j'ai ce souvenir-là aussi, parce que c'est la mort de Coluche, ce jour-là, le quart de finale France-Brésil. Donc, ça nous avait marqué aussi. Et enfin, nous, on était très loin, mais on avait appris ça. Je crois que c'était avant la fin du match.
Ça vous a marqué ?
Oui, bien sûr. Et donc, on arrive aux demi-finales de Coupe du Monde, dans la demi-finale contre l'Allemagne, encore les Allemands.
Et on perd.
Contre les Allemands et on perd. On perd toujours contre les Allemands. Ma génération.
Terminé.
Voilà. On était, j'irais un peu. Ce match-là, bon, moi, je me blesse à la fin du match du Brésil, donc je ne peux pas le jouer. Et puis, Michel Platini est blessé, c'est blessé. Donc, on est un peu au bout du rouleau, quoi. Voilà.
Et vous saviez, Dominique Rocheteau, que c'était votre dernière Coupe du Monde ?
Ah bah oui, parce qu'on avait tous, je vous dis, on était tous trentenaires. Donc moi, j'avais 31 ou 32 ans. Donc voilà, oui, bien sûr. D'ailleurs, une grande partie de notre génération, on s'arrête après cette Coupe du Monde. Que ce soit Max Bossis, je crois que Michel, je crois qu'il s'arrête aussi, il me semble. Enfin bon, voilà.
Alors, entre-temps, vous avez quitté l'AS Saint-Étienne. On l'oublie souvent, d'ailleurs, parce que vous êtes tellement, vous êtes tellement identifié au stade Geoffroy Guichard qu'on oublie que vous avez été au PSG et que vous avez vécu les dernières années de vos 17 années de vie professionnelle dans le football au Paris Saint-Germain. Quel souvenir gardez-vous de cette équipe qu'on a toujours un peu... j'allais dire regarder avec un œil différent
ouais,
des
vrai.
Autres équipes, à une époque où vous aviez comme président...
Une équipe showbiz.
Showbiz.
Ouais, quand je dis showbiz, parce que dans le public, c'était assez showbiz aussi. C'était la période Francis Borrelli, que j'ai beaucoup... notre président, que j'ai beaucoup apprécié, qui, lui, était... oui, il avait une frustration, c'était parce qu'il avait voulu être joueur professionnel. Et c'était un président supporter, un président passionné, qui aimait beaucoup ses joueurs, qui était très...
Plus que Roger Rocher.
Ouais, très à l'écoute de ses joueurs. Il venait s'entraîner avec nous de temps en temps. Enfin bon, voilà, c'était... Non, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, j'ai connu le grand moment à Paris, bien sûr, au Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'était un... c'est un peu mon jardin, quoi, parce que je connaissais, parce qu'à travers les matchs de l'équipe de France, mais après, au Parc des Princes, avec Saint-Étienne, j'ai connu des grands moments, mais alors c'est vrai que mon image est marquée Saint-Étienne, parce qu'il y a eu cette grande période des années 76 de Coupe d'Europe, mais autant à Paris, je me suis vraiment éclaté, et même sportivement. Et c'est vrai que souvent on oublie que je joue à Paris. Alors je suis vraiment éclaté à Paris. Oui. J'ai joué avant-centre, j'ai marqué beaucoup de buts.
Alors le fait de jouer à la place que vous souhaitiez quand vous étiez déjà gamin.
Et puis j'ai connu de grands joueurs à Paris aussi.
Effectivement, vous avez côtoyé des grands joueurs. Le fait d'avoir joué avant-centre, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre perspective de jeu, dans votre manière de jouer? Qu'est-ce que ça a changé?
Oui, peut-être une plus grande liberté. C'est ce que je recherchais aussi.
Plus de buts aussi?
Ouais, bah plus de buts.
Vous êtes le
deuxième buteur du PSG. Du
Paris Saint-Germain.
Je pense que Ibra va me battre dans pas longtemps. Ça, au rythme où il va.
Zlatan.
Oui, Zlatan. je pense qu'il va me dépasser dans pas longtemps. Ouais. Parce que lui, c'est un immense joueur. Mais ouais, vraiment éclaté parce que il y avait le football, il y avait Paris, et puis il y avait Paris aussi. Pareil, j'ai vécu ma vie. J'étais professionnel, bien sûr. Je pense que
qu'une vie sociale,
si je faisais quelques écarts parfois, mais moi j'ai eu le sentiment de vivre aussi. Ben, j'aimais la musique, j'allais voir des concerts. Voilà.
D'aller au New Morning, écouter
par
du
exemple.
Jazz.
Exact.
Ouais. Mais ça, c'était vraiment. Bien. Alors là, vous étiez au comble de votre satisfaction musicale, puisque vous
complètement
sans arrêt au concert.
Hein. Complètement. Ouais.
Ça ne jouait pas sur l'exigence du sport. Le lendemain matin, quand il fallait aller sur le terrain?
On peut aller voir des concerts sans avoir fait la fête toute la nuit. Hein. Non, non. Au contraire.
Vous avez toujours cru en cette équipe du Paris Saint-Germain?
Ah bah c'est plus. De toute façon, on ne peut plus comparer le Paris Saint-Germain que j'ai connu avec le Paris Saint-Germain actuel.
Aujourd'hui.
C'est notre dimension, ça n'a plus rien à voir. Puis il y a eu la période aussi Canal+, avec Michel Denisot, tout ça. Il y a eu plusieurs périodes, en fait,
dans
ce club. Oui, mais parfois, il y a des clubs où il y a, comment dire, une continuité, quand même. Bon, là, il y a eu plusieurs périodes. Période Borelli, période Euster Borelli, et puis la période Canal+, Michel Denisot, et puis maintenant, la période que l'on connaît, les Qataris.
Qu'est-ce qui fait la différence entre un club comme Saint-Étienne, enraciné dans le milieu ouvrier, avec son équipe de formation, son centre de formation, et une équipe comme le PSG, qui n'a rien d'ouvrier, et qui n'a pas de centre de formation à la hauteur de Saint-Étienne.
Ouais. Ah bah à l'époque, moi, la grande différence, c'était que... les matchs que je jouais à Paris, au Parc des Princes, c'était des matchs... les gens, ils venaient voir un spectacle. Ils venaient voir un spectacle, quoi. Donc voilà. Ils venaient pas te supporter. Donc c'était pas forcément évident. Parce que, ils venaient comme à un spectacle. C'est-à-dire que si ça se passait bien, ils étaient derrière toi. Puis si ça se passait mal, ils pouvaient te siffler. Ils pouvaient te... Voilà. Il n'y avait pas d'esprit de supporter. C'est au fur et à mesure, après, quand on a commencé à gagner le premier titre. Là, on a commencé à avoir
des vrais supporters.
Des vrais supporters. Et mais nous, c'était les matchs de gala, quoi. Il y avait des grands matchs de gala quand on jouait contre les grandes équipes. Alors là, le Parc des Princes était comble. Et puis parfois, il y avait des petits matchs, tu jouais devant 10 000 spectateurs. Enfin bon, voilà.
Et comment vous viviez cette dimension très différente des supporters? Je suppose que vous qui êtes très... on considère comme un romantique, comme quelqu'un d'assez sensible.
Ah, mais moi, j'aimais bien les deux, parce que, autant à Saint-Étienne...
Comment vous aimiez les deux? Je pense que vous préfériez quand même...
non, mais j'aimais bien Paris aussi.
La culture footballistique stéphanoise que parisienne.
Bien sûr, complètement. Mais j'aimais bien les deux, dans la mesure où j'ai pu vivre ma vie aussi à Saint-Étienne. Je parle de l'époque, à Paris.
Paris.
Je parle de l'époque. Parce que, t'étais quelque part... moi, j'aimais bien ce côté anonyme, quoi. Tu peux vivre ta vie.
Vous pouvez vous balader
à
Paris sans problème.
Ouais.
C'était manière de retrouver une forme de solitude.
Oui, je pense aussi, bien sûr.
Et votre vie privée a changé? Vous aviez déjà des enfants, pas encore?
Mes enfants, je les ai pratiquement... J'ai 4 enfants, donc je les ai tous après à la fin de ma carrière. Après, oui.
Et au fond, qu'est-ce que vous gardez d'essentiel, de différent et de définitif de ce passage au Paris Saint-Germain ?
Non, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Et puis, beaucoup d'amis aussi, ça c'est important. Beaucoup d'amis à travers de tous les joueurs que j'ai rencontrés, que je revois.
Au-delà des entraînements, des matchs, vous restez amis avec certains joueurs.
Ah, bah oui, oui, des certains joueurs, bien sûr.
Lesquels, par exemple ?
Moustapha Dalleb, Joël Bat, qui est à Lyon maintenant. Je pourrais en citer plein. Qui ne me viennent pas maintenant. Ça fait Tuzik, ouais. Je vois de temps en temps que j'aime beaucoup. Enfin, il y en a pas mal.
Dominique Rocheteau, à quel moment vous avez décidé, ou vous avez pensé, pas décidé, pensé, arrêter votre carrière ? Est-ce que c'est l'âge ? Est-ce que c'est la condition physique ? Est-ce que c'est l'état d'esprit qui conditionne cette décision ?
C'est une certaine usure. Usure, enfin, c'est un grand mot. Usure au niveau de... Pas physique, mais usure morale. Voilà. Le fait de s'entraîner tous les jours. J'étais un bosseur, un travailleur.
Mais il y a une lassitude.
Mais moi,
qui se manifeste.
Ce que j'aimais, c'est les matchs. C'est les matchs. M'amuser sur un terrain. Donc, à la fin, bon, je termine à Toulouse, les deux dernières années, où j'ai eu aussi de bons moments, avec des bons joueurs à l'époque aussi, puisqu'on était en Coupe d'Europe.
Vous avez retrouvé Santini.
Ouais.
C'est un joueur qui était un de vos coéquipiers.
Stopira, qui était équipe de France aussi. Des Argentins, Tarantini, Marsico. Enfin, Tarantini qui avait joué la Coupe du Monde en 78. Et l'usure du quotidien, de l'entraînement quotidien.
Est-ce qu'il y a aussi le regard que portent les entraîneurs, dirigeants sur vous-même ? Est-ce que vous dites, je suis peut-être en déficit je suis en interrogation. Est-ce que le regard des autres joue ?
Non. Non, sincèrement non, parce que je m'arrête relativement jeune. J'arrête à 34 ans, je pense continuer, mais j'arrête à 34 ans. Oui, par rapport à cette saturation. Mais par contre, je continue à jouer au football régulièrement, puisque je continue encore à jouer. Avec mon âge, avec un certain âge. Et voilà, et je continue à m'amuser, à me faire plaisir. Mais c'est les matchs, quoi. Le jeu.
C'est le jeu. Mmh. Et de ce point de vue-là, il n'y a rien qui s'émousse.
Non.
Ce n'est pas le cas de vos collègues joueurs qui peuvent considérer que...
Moi, j'aime bien encore jouer. Bon, je joue avec le Variété, qui est une équipe d'anciens joueurs. Il y a des jeunes aussi. Mais j'ai mon fils qui joue aussi, et j'aime bien jouer avec mon fils, de temps en temps.
Il y a vraiment une transmission génétique du football chez vous.
Oui, complètement, oui.
Et alors, quand vous vous dites « je vais arrêter », il y a évidemment l'inévitable jubilé qui se fait, comme tous les grands joueurs de foot, avec une autre équipe, c'est le Racing Club de France, je crois, qui...
C'est le Variété Club de France,
qui l'organise.
Avec M. Jacques Vendroux.
Voilà, Jacques Vendroux. On salue tous ce soir.
L'organisateur de plusieurs jubilés de joueurs de sa génération. Enfin, sa génération. C'est lui qui a organisé le jubilé de Michel Platini. Et voilà, on décide d'organiser ce moment jubilé dans ma région, à Royan, dans une petite ville. Et c'est vrai que ça a été un grand souvenir parce que c'est un tout petit stade. Et à l'époque, il n'y avait pas des problèmes. Enfin, on n'avait pas les problèmes de sécurité de maintenant. Et c'était l'été, il y avait, je crois, 12 ou 13 000 spectateurs qui étaient venus dans un tout petit terrain, un stade. Enfin, il y avait des mondes partout. Et c'est vrai que j'avais réussi à faire venir tous les pas mal de joueurs que j'avais côtoyés pendant toute ma carrière, quoi. De l'équipe de France, de Saint-Étienne, de Paris aussi. Donc c'était très sympa.
Et là, vous continuiez à être célèbre, avoir une grande notoriété. Avez-vous eu conscience de l'impact que vous aviez dans l'imaginaire des jeunes footballeurs, de vos collègues qui continuaient à vous admirer ? Est-ce que cette prise de conscience de la notoriété, de votre originalité, vous l'aviez jusqu'au bout.
Originalité, c'est un grand mot. Moi j'ai toujours... Vous êtes un peu... Moi, j'ai toujours marché comme ça, sur des coups de cœur. Sur des coups de cœur, sur le plaisir, quoi. Essayer de trouver des moments forts comme j'ai pu vivre pendant ma carrière de footballeur. C'est ce que j'ai toujours été un peu à la recherche de ça aussi, je pense. Notamment quand j'ai fait le film de Maurice Pialat. C'était quand j'ai décidé. C'est plutôt lui qui a décidé quand même. C'est lui
quand qui Gérard Depardieu vous chercher. A repéré oui. Et a parlé de, ouais, voilà. De vous à Gérard. On en parlera un peu plus tard.
Ouais, donc ça, c'était une rencontre. Mais j'avais envie de connaître des moments forts et intenses que j'avais. Voilà.
Je vais peut-être poser ma question autrement, Dominique Rocheteau. Comment expliquez-vous cette notoriété, c'est votre personnalité, comment vous l'expliquez, votre spontanéité, votre sincérité, votre manière de vivre un peu à l'écart, votre passion pour d'autres choses que le football, comment, avec ce recul, maintenant vous avez 58 ans je crois,
59,
comment vous expliquez tout ça, et même votre retour à Saint-Étienne aujourd'hui, puisque nous sommes ici au centre d'entraînement de l'AS Saint-Étienne, à passer ces soirées avec vous. Mmh. Mais comment vous expliquez ?
Je ne sais pas si je vous parle de notoriété. Ça franchement, pour moi, c'est pas le plus. Franchement, c'est pas le plus important. Le plus important, je vous dis, c'est moi, c'est toujours été le côté rencontre. La relation humaine, moi je peux pas vivre dans le conflit, il faut que j'ai du plaisir, par exemple ça fait 4 ans que je suis revenu à Saint-Étienne et j'y trouve beaucoup de plaisir parce que on obtient des résultats et puis parce que aussi il se passe quelque chose au niveau des personnes, il y a une grande confiance, une grande entente, et c'est ça que j'aime. Après, le reste, pourquoi si, pourquoi ça, je sais pas. Parce que bon, à une certaine époque aussi, je pense qu'avoir, j'aime pas parler de ça, de moi, mais marquer peut-être une génération qui pouvait peut-être s'identifier parce que je suis arrivé au bon moment, J'étais dans l'air du temps.
Les cheveux longs.
Voilà, voilà. J'aimais la musique.
Vous aimez la musique. Vous avez une bonne bouille, les filles vous aimaient. C'est ça qui...
Peut-être.
Peut-être. Mm-hmm. Comment vous regardez aujourd'hui les jeunes joueurs évoluer sur les terrains, s'installer dans une autre culture du football qui était celle des années 70 ? Quelquefois, vous n'êtes pas tendre avec eux. Quand je relisais un peu la presse, les coupures de presse et les réactions aux questions, oui, que certains de mes collègues à France Football ou à l'équipe vous posaient, vous les trouviez peut-être moins collectifs, beaucoup plus individualistes, plus carriéristes, que cet esprit de militance, d'engagement.
Ouais, alors ça, je me suis... Oui, j'ai peut-être dit...
Parlez-nous de ça.
Mais c'est difficile de parler comme ça, et puis en généralisant. Parce qu'en fait, quand tu as un œil de consultant, comme j'ai pu avoir, par exemple, avec Radio France, quand j'ai suivi les Coupes du Monde, quand vous côtoyez pas les... Quand vous voyez ça de... Parce que je vois les consultants actuellement, quand ils sont assez critiques aussi. Et quand vous côtoyez pas les joueurs, quand vous les connaissez pas, vous avez une vision globale, mais pas... Voilà, et moi, depuis 4 ans que je suis à Saint-Étienne, je côtoie tout... Donc, je m'occupe du centre de formation des... Donc, je côtoie tous les jeunes, je côtoie les professionnels aussi, le groupe des professionnels. Mais c'est vrai qu'il y a des mecs... Enfin, et puis la majorité, c'est des mecs super, quoi. Alors, on essaie de faire les bons choix aussi à Saint-Étienne. Donc dans le recrutement, parce que l'état d'esprit, c'est très important. C'est-à-dire qu'on préfère prendre un joueur un peu moins fort, mais qui a un super état d'esprit, qui va être dans l'esprit, je dirais, pas dans l'ego, mais plutôt dans l'esprit collectif et dans l'esprit des valeurs du club, quoi. Donc c'est aussi pour ça que ça se passe bien et que j'ai une bonne relation aussi avec les joueurs d'ici.
Donc c'est la dimension humaine qui prime.
Ah oui, ici c'est la dimension humaine, avant tout. Et c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait aussi le fait qu'on ait des résultats.
Et comment on peut protéger cet esprit humaniste, ces valeurs, dans un environnement footballistique qui est beaucoup plus un business qu'avant?
En les inculquant.
Pardon?
En leur inculquant justement ces valeurs, à travers les éducateurs qu'ils côtoient, à travers cette histoire du club qu'on leur montre aussi, hein, qu'on leur explique. On vient de créer un musée, c'est pas un musée, le musée ça fait un peu vieillot, c'est un musée hyper moderne.
Donc, le musée des Verts.
Ouais, le musée des Verts. On leur montre des films de toutes les générations. On leur, voilà, l'éducation c'est hyper ici. Enfin, j'espère que dans les autres clubs c'est comme ça, mais c'est hyper important. Voilà.
Ça va être, on imagine, assez moins simple qu'avant quand même, avec les facilités financières qu'ils ont. Je suppose que ça doit être différent.
Oui, oui. Ce qui est moins simple, c'est tout ce qui entoure, tout ce qui est autour, c'est-à-dire le monde du business, les agents qui sont autour aussi, qui récupèrent des gamins dès leur plus jeune âge, pas forcément toujours pour les bonnes raisons.
On voit des grandes marques sponsorisées dès 11 ans, quelques équipes, des enfants, ça fait... Je pense que vous qui êtes traversé par cet esprit des valeurs, comme vous dites, ça doit être dérangeant.
Ouf. Je sais pas, moi je... Enfin, ici à Saint-Étienne, je vais pas dire qu'on n'est pas comme les autres, mais on n'est pas dans ce monde-là, quoi. On essaie de survivre. On essaie de survivre au football business, mais on n'est pas dans cette démarche.
Dominique Rocheteau, à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Dian rencontre Dominique Rocheteau. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Stéphane Caberlon, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur franceculture.fr. Demain, suite de cette rencontre entre Jean-Michel Dian et Dominique Rocheteau.